Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans À quoi qu'on joue, votre émission mensuelle sur le jeu et l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et comme à l'accoutumée, c'est moi qui vous présente cette émission. Comme chaque mois, je reçois un invité. Ce mois-ci, Jean-Loup Corde, dit Laliche, fait son retour dans notre émission pour nous parler de jeux de plateau et de leur histoire. Bonjour Jean-Loup et re-bienvenue dans À quoi qu'on joue.
Bonjour Daoud.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Alors Jean-Loup, juste en quelques mots, est-ce que tu pourrais te représenter pour nos auditeurs qui ne t'auraient pas entendu il y a deux mois ?
Alors, je suis déjà un vieux monsieur, j'ai 62 ans, je suis à la retraite et je suis passionné depuis toujours par l'histoire des jeux en général.
Des jeux en général. Alors, moi je te l'ai déjà demandé il y a deux mois, tu sais, notre émission, mais c'est un petit peu le rituel, notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?». Alors toi, en ce moment, à quoi tu joues Jean-Loup ?
Alors, en ce moment, du fait du Covid, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a peu de parties. Les dernières que j'ai fait, on a repris des jeux un peu, qui ont une trentaine d'années, comme Java.
Oui, hein, tout à fait.
Voilà. Et sinon, beaucoup de lectures. Et puis, je suis retombé dans un vieux jeu, Baldur's Gate.
Un vieux jeu PC, donc. Donc, tu te refais des parties de Baldur's Gate.
Oui.
Alors, pour nos auditeurs les plus jeunes, qui n'auraient jamais entendu parler de Baldur's Gate, c'est un jeu qui fonctionne avec les règles d'un jeu de rôle qui s'appelle Donjons et Dragons, deuxième édition.
Première édition.
Et on a donc tout un groupe de personnages qu'on va envoyer dans les royaumes oubliés pour vivre une aventure, faire des quêtes et retrouver un petit peu les origines de son personnage. Enfin bref, c'est très sympa comme jeu, c'est très tactique. Moi aussi, je l'ai fait à la grande époque. Et je me souviens, ça a été très longtemps le jeu qui m'avait mangé le plus d'heures, qui avait été le plus chronophage. Moi, j'avais mis 180 heures à faire ma partie. Mais c'est vrai que j'avais poncé un peu la carte. C'était les premiers mondes un peu étendus, un peu élargis, où on pouvait se balader un peu partout sur la carte au fur et à mesure du jeu. C'était très, très sympa. Tu joues quoi à Baldur's Gate ?
Hein ?
Tu joues quoi comme personnage ?
Un petit voleur.
Un petit voleur, tiens, regarde donc. Alors, Jean-Loup, si je t'ai proposé de revenir aujourd'hui dans l'émission, la dernière fois que tu étais venu, on avait vu ensemble un peu l'histoire du jeu de rôle, dans ses grandes lignes, bien évidemment. Je t'ai proposé de revenir aujourd'hui pour que nous puissions faire quelque chose d'un peu comparable, d'un peu similaire au niveau des jeux de plateau. Première question, Jean-Loup. Nous, on connaît tous aujourd'hui tout ce qui est jeu de plateau comme le Monopoly, le Cluedo, c'est-à-dire toutes les boîtes, ce format avec le matériel qui l'accompagne. C'est quoi en vrai les ancêtres de ces jeux-là, Jean-Loup ?
Alors, c'est relativement compliqué à définir une filiation simple, puisque tous ces jeux fonctionnent sur des mécaniques de jeu. C'est-à-dire qu'on va différencier, quand on va parler, la mécanique et la thématique.
Oui.
Donc, les mécaniques de jeu, on les retrouve depuis l'Antiquité. À savoir qu'on va avoir des jeux de stratégie, de déplacement, de parcours et de déduction.
Très D'accord. bien.
Ça, c'est la mécanique. Ensuite, on va avoir les thématiques et on va voir que les thématiques, elles sont corrélées à l'évolution de la société.
Mmh.
Donc, les premiers grands jeux... Alors, on dit de plateau ou de tablier ou de table.
Oui. Alors, hein. Un tablier, on peut peut-être expliquer pour nos auditeurs ce que c'est.
Alors, un tablier, c'est un plateau déterminé avec soit des cases pour un parcours, tels les petits chevaux.
Oui.
Ça va être soit un échiquier ou un damier. Ça peut être des cases dans toute la famille des jeux de Mancala, là où elle est, par exemple.
Tout à fait.
Ça peut être, alors on retrouve un peu sur le même type tout ce qui est le jaquet, le tout de table qui donne le backgammon.
Tout à fait.
Des jeux méditerranéens qui trouvent leur origine en fait dans le jeu des latroncules romains.
Redis-nous le nom de ce jeu romain.
Les latroncules.
Les latroncules.
Voilà, qui est un jeu de parcours. On a le jeu du Senet ou le jeu Royal Dur qui sont des jeux de parcours avec effectivement un tablier, un plateau.
Donc oui, en fait, tous les gens qui ont chez eux une malle, ce qu'on appelle les petites malles à jeu, là où on trouve le jeu des petits chevaux et à la fois un backgammon et un jeu de la marelle ou du moulin, des choses comme ça. En fait, tous ces plateaux qui sont à l'intérieur de cette malle sont des tabliers.
sont des tabliers.
Mais on dit des plateaux, maintenant on utilise plus ce terme.
Alors, maintenant, en fait, on utilise le terme « jeu de plateau » aujourd'hui en France.
Oui.
Principalement à partir de 1995.
Ouais. Auparavant, c'est très récent.
Voilà. Auparavant, on parlait de jeux de société.
Oui.
Alors, on parlait de jeux de société dans la période d'entre les deux guerres jusque dans les années 90.
Mmh.
Puisqu'auparavant, le jeu de société n'était pas déterminé sur un jeu de stratégie, mais était plutôt les jeux qui étaient pratiqués dans les salons mondains, donc
en
dans
société.
La société.
D'accord, oui.
Hein, c'était des ouais. jeux, souvent, des jeux à gages, principalement.
Mmh.
Voilà. Donc, par exemple, le Colin Maillard était un jeu de société.
Bien sûr.
Et ils étaient souvent connotés de frivolité.
Ouais. Donc, finalement, toute l'activité ludique, quelle qu'elle soit, était appelée jeu de société, puisqu'on jouait ça en groupe ou en société ou dans la société. Et alors, tu nous disais qu'à partir des années de 90, on a instauré, si je puis dire en français, le terme jeu de plateau.
Oui, qui s'est substitué à la notion de jeu de société en boîte.
Tout à fait. Et alors, je crois qu'il y a un jeu qui est à l'origine du terme, enfin, en tout cas en France, hein, on le précise encore.
Alors, le jeu qui est le jeu tournant et qui est le pionnier de cette nouvelle pratique ludique, mmh. c'est Les Colons de Catane, qui est sorti en 1995,
oui.
et qui va ouvrir la voie à tous les jeux que l'on connaît aujourd'hui avec oui, l'émergence des jeux de coopération.
Tous les jeux de plateau, comme on l'entend aujourd'hui, effectivement, ils ont tous un papa commun, c'est les Colons de Catane. Et c'est vrai que, toi comme moi, on était déjà en association de jeux à l'époque où les Colons de Catane sont sortis, et c'est vrai que, pour moi, mon souvenir, c'est que c'était vraiment une révolution. Il y avait un jeu de plateau qui était... un jeu de société qui était vraiment construit différemment. Il y avait une addiction ludique différente à ce jeu-là qu'à d'autres. Et,
ouais.
et on en a fait des centaines de parties à l'époque.
Voilà. Alors, même si on avait déjà vu un mouvement apparaître quelques années avant, avec notamment toute la création française de la gamme Ludodélire.
Et bien sûr. Alors, nous, au Conservatoire du jeu, on a un vrai coup de cœur pour la gamme Ludodélire. Au-delà, c'est pas du chauvinisme, au-delà que ce soit un éditeur français, ils ont sorti une dizaine de jeux, et c'est vrai que c'est pratiquement 10 perles. Et avec tous des mécaniques de jeu différentes, tous des thématiques différentes, et tous des jeux qui, 30 ans, 40 ans plus tard, sont toujours aussi jouables et aussi sympas. On va vous donner 2-3 titres comme ça à la volée, mais il y a le fameux Super Gang qui était fourni avec un pistolet à fléchette à ventouse où on jouait des malfrats et on devait abattre les autres malfrats, ne pas se faire arrêter par la police et donc avec le pistolet on tirait sur des cibles.
L'ancêtre de GTA.
Le vrai ancêtre de GTA. Mais il y avait aussi des vrais jeux de réflexion comme le fameux Full Metal Planet. Où c'était un jeu sans hasard, où on avait un certain nombre de points d'action en début de tour, et on devait aller prendre des ressources à d'autres joueurs sur une autre planète. Enfin, il y a eu tout un tas de titres, La Vallée des Mammouths, Tempête sur l'échiquier, qui revoyait les règles des échecs en rajoutant un jeu de cartes à côté de son échiquier, avec des actions imposées qui pouvaient être aussi tout aussi loufoques les unes que les autres, et qui transformaient complètement le jeu d'échecs en un autre jeu, et en un autre jeu vraiment fun. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour citer cela. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper Ludodélire en un seul mot sur Internet. Vous verrez, il y a tout un tas de sites qui parlent de leur gamme. Alors, je reviens à nos jeux de plateau et à leurs ancêtres. On a parlé des tabliers, on a parlé des échecs, du backgammon, des damiers, du dada. Mais il y a aussi tout un tas d'autres jeux. Moi, je pense aux jeux de construction, au loto, tous ces jeux qui étaient fin 19e, début 20e siècle. Tout ça, ça rentre comment dans la culture et dans la généalogie du jeu de plateau.
Alors en fait, si tu veux, c'est des familles de jeux qui apportent un certain nombre de mécaniques, hein, la construction. Donc on voit bien par exemple que le jeu de construction en tant que tel va donner les tuiles pour constituer son plateau.
Mmh.
Hein, puisqu'on voit maintenant dans les jeux modernes des jeux, par exemple je prends Carcassonne, c'est l'exemple
oui.
typique, où le plateau de jeu va être constitué par des tuiles qu'on va poser successivement avec des valeurs et donc une stratégie. Donc on est entre le jeu de construction et le puzzle.
Tout à fait.
Hein, mais le puzzle rentrant dans la famille des jeux de construction.
Ouais. Enfin, bien sûr. C'est vrai que c'est très difficile de catégoriser les pratiques ludiques et les jeux, même au sein d'une même famille comme les jeux de plateau ou les jeux de société au sens large. Donc le puzzle est une variation de, et puis il pourrait rentrer aussi dans les casse-têtes. Enfin bon, c'est compliqué. on a plein d'origines qui sont effectivement sur la fin du 19e siècle et sur le début du 20e.
Alors, pas les origines. En fait, ça va se formaliser. C'est-à-dire qu'on est sur des lentes évolutions.
D'accord.
Hein, les règles du jeu d'échecs ont évolué depuis son départ. Alors, on le situe en Inde. Mais les règles prennent du temps pour évoluer, se structurer. Les règles modernes des échecs, finalement, elles n'ont été fixées en Espagne qu'à partir du XVIe siècle,
oui.
16-17e siècle, hein, avec la valeur des pièces. Alors, on retrouve dans les jeux asiatiques le même type de pièces, avec des déplacements plus ou moins similaires.
Mmh.
Mais nos règles d'échecs, on va mettre un nombre d'années important pour se structurer. Et il en est de même pour tous les jeux. Tous les jeux ont des systèmes de maturation jusqu'au moment où on va les fixer dans l'aspect commercial. Donc pour que ce soit commercial, il faut que d'un bout à l'autre de la France, on ait les mêmes règles.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, on va définir des jeux avec des explications, un livret de règles.
Mmh.
Et ça, c'est le 19e siècle, principalement, qui va le développer.
Alors, tu nous as dit que les jeux avaient donc une mécanique et une thématique, que la thématique changeait au fur et à mesure du contexte de société et de culture. Mais si tout ça évolue, j'imagine que les pratiquants, les joueurs, eux aussi ont dû évoluer au fil des années. Et si on reprend cette période là où on a cette normalisation du jeu, qui étaient les joueurs à l'époque et parce qu'on sait qui sont les joueurs aujourd'hui à peu de choses près, qui étaient les joueurs à l'époque, c'est-à-dire sur fin 19e, début 20e et après.
Alors là, on ne va parler que des jeux dits de société, de stratégie,
ouais.
Hein, c'est-à-dire que tout ce qui va être jeu d'adresse. Hein, les jeux de cartes, je les laisse de côté. Donc,
d'accord.
Elles étaient pratiquées,
oui.
Les jeux de dés, les jeux de hasard, ça a été longuement réglementé,
oui.
C'était pratiqué dans toutes les couches de la population. Là, on va avoir affaire à du matériel qui est plus ou moins noble, hein, puisqu'on va constituer des jeux à partir de matériaux tels que l'ivoire, l'ébène, puis après des impressions en couleur, des chromos, des lithographies, de l'ébénisterie. Donc on va avoir affaire à un public plus bourgeois, plus noble, et moins populaire au départ.
Hein,
C'est surtout, j'ai envie de dire, le 19e siècle, c'est l'explosion du jeu bourgeois.
Alors, je me permets juste de faire une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on fait souvent des expositions avec une malle à jeux 1900 qui propose une sélection de jeux qu'il y avait à l'époque, et c'est vrai que c'était un produit qui s'adressait, je sais pas quel est le bon terme, peut-être une certaine élite, en tout cas une élite financière, hein, des gens qui avaient les moyens de pouvoir acheter une malle à jeux qui comprenait plusieurs jeux.
Alors, la malle à jeux, elle s'offrait au départ vide, et puis des éditeurs proposaient en fait des petits jeux. Des petits formats. Alors, on retrouvait tout type de mécaniques à l'intérieur. On avait des casse-têtes, on avait des jeux de stratégie, on avait des jeux de hasard, on avait des jeux divinatoires. Et les familles offraient successivement ou se constituaient leur mal à jeu par des achats successifs. Alors, il y a des grands éditeurs comme Vetio. Hein, ou Saucine qui ont fait ce type de matériel.
Oui, qui ont fait les grandes heures de ces mal à jeux.
C'est
vrai que nous, donc, on a au sein du conservatoire quelques mal à jeux avec quelques exemplaires à l'intérieur. On peut peut-être citer quelques titres de jeux de l'époque. Moi, je pense au jeu du divorce, qui est en réalité un casse-tête avec deux anneaux que l'on doit démêler ensemble. Mais il en existe plusieurs autres qui sont très connus.
Oui, le jeu des trois couleurs.
Le jeu des trois couleurs avec le principe de billes qu'il fallait venir placer pas sur des couleurs.
Sur des couleurs, le coucou où on retrouve des personnages tels que Monsieur Radin.
Mais il y avait aussi des jeux de cartes complets, des jeux de loto. C'était pas que des casse-têtes avec des noms rigolos.
Non,
il y avait,
puis on retrouvait déjà tous les grands classiques,
les échecs, dames, backgammon.
Alors, on disait pas backgammon à l'époque. Hein.
Oui, on disait pas backgammon encore. Mais on a compris que le jeu, en fait, il suit une espèce de... Il suit la société, hein, sans vouloir faire aucun jeu de mots. Le jeu suit la société et le contexte sociétal. Il y a une forme d'évolution et dans les jeux et dans même un peu dans les mécaniques, j'imagine, au fur et à mesure du temps. Mais qu'est-ce qu'on pourrait signifier, qu'est-ce qu'on pourrait formaliser comme évolution de la pratique ludique à partir des années 1900, c'est-à-dire à partir de ce moment où il y a une démocratisation du jeu.
Alors, dans la pratique, c'est pas facile de déterminer des grandes étapes. En fait, la thématique va être porteuse de l'évolution de ces jeux et de leur diffusion. Les thématiques sont collées à l'évolution, et notamment à l'évolution scientifique de cette période de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ce qui va donner, en fait, on va garder la mécanique, par exemple, du jeu de parcours, hein, donc ouais. Du jeu de déplacement, comme un jeu de loi, ouais. Mais on va voir apparaître le steeplechase, donc les courses de chevaux.
Oui, les jeux de course de chevaux.
Les jeux du vélodrome, c'est-à-dire que l'apparition de la bicyclette va fournir un grand nombre de jeux de parcours. Hein, ouais. De même que l'apparition de l'automobile va faire en sorte qu'on va avoir des parcours en France, en Europe. Alors, on voit bien que derrière tout ça, on a aussi une diffusion d'une forme de connaissance. Je vais pas dire, c'est pas pédagogique, mais ça donne de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va faire découvrir un peu les éléments de nouveauté. Donc la géographie, hein, le nombre de puzzles géographiques.
Oui, on en voit souvent sur les brocantes où on voit ces puzzles, le puzzle de la France par exemple, où il y a une pièce par département, c'est en bois, il y a un petit téton pour saisir la pièce, et on vient reconstituer dans un encadrement tous les départements de France.
Voilà, donc en fait, on diffuse de la connaissance. Donc on voit l'automobile, on voit le commerce qui vont structurer. Et puis après, on va voir l'histoire qui va... Hein, tous les grands événements historiques, les explorations...
Tout ce qui va se passer, évidemment, dans la première moitié du XXe siècle. Donc on pense aux deux guerres mondiales et tout ça. Ça va évidemment influencer...
Toutes les thématiques
pour produire des jeux, puisqu'on va avoir plein de jeux qui vont avoir comme thématique la guerre. Que ce soit des jeux d'affrontement où il faut éradiquer notre armée, ou des autres jeux de plus de stratégie où il faut faire du placement, voire même des jeux qui n'ont rien à voir avec des déplacements d'armée, mais qui auront pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale. Il en existe, c'est effectivement.
Voilà. Donc là, on est dans la famille des jeux de stratégie. On va l'habiller avec le contexte historique, mais c'est des échecs. Enfin, je veux dire, le principe de l'affrontement de deux armées, le jeu d'échecs.
Le stratégo, on a une belle représentation. Stratégo, ça ressemble aux échecs en apparence. Ça se joue à deux. Chaque joueur a une série de pions devant lui, qui ont des déplacements, qui ont des rôles, hein, et ce sont tous des membres d'une armée, enfin d'un bataillon. Donc il y a le chef de bataillon, il y a les généraux, etc. Et on retrouve un principe semblable aux échecs et des stratégies, des modes de réflexion semblables aux échecs, sans que ce soit aussi abouti que les échecs, mais ça reste effectivement la même chose avec des gros guillemets autour. Jean-Loup, quand on préparait cette émission, tu m'as fait part d'une petite anecdote sur le Monopoly. J'aimerais bien que tu la racontes à nos auditeurs.
Oui, alors, on était en train de discuter sur, en fait, la maturation d'un jeu, qu'un jeu, ça n'émergeait pas forcément immédiatement comme ça, que ça avait toute une histoire. Et le Monopoly, tel qu'on le connaît traditionnellement aujourd'hui, date de 1933 et de Charles Darroze. Mais, j'ai envie de dire, 30 ans avant, une Américaine, Elizabeth Magee, a proposé un jeu qu'elle a fait breveter sur alors qui comprend le même plateau de jeu pratiquement, sans les mêmes mécaniques, mais qui dénonçait la taxe unique. La taxe unique, c'est-à-dire en fait que vous soyez propriétaire d'une toute petite maison ou d'une grosse entreprise, vous payez la même chose.
Alors tout ça, c'était aux États-Unis, bien évidemment.
C'était aux États-Unis. Et ce jeu va circuler pendant plusieurs années. Donc, en fait, un jeu dont la diffusion a été très restreinte. Pas du tout une grande diffusion. Vraiment dans des tout petits cercles. Mmh. Ce jeu va circuler et il va y avoir un jeu intermédiaire entre ce premier jeu et le Monopoly qui s'appelle Finance, qui lui va introduire non plus l'idée que il faut lutter contre ce qui semble une injustice, mais plutôt sur la spéculation économique.
D'accord.
Donc l'idée des trusts, donc de savoir faire un rassemblement de plusieurs éléments de jeu.
Oui.
Donc on voit c'est
le principe
couleurs
du Monopoly, donc d'acheter un quartier entier avec toutes les rues.
Voilà, et pour pouvoir leur donner de la valeur. Et on n'est pas encore sur la construction. C'est entre le jeu Finance que Charles Darroze, dans un cercle restreint, alors par
Charles
rapport
Darroze.
Qui va breveter un jeu où on va voir là les règles quasi définitives du Monopoly, mais ces règles, elles sont nées finalement d'aménagements successifs dans des parties entre amis.
Oui.
Dans des choses très restreintes, où on va voir effectivement au départ donc les enchères, on va voir le regroupement
des quartiers,
des rues, et puis après l'introduction de la construction et de la valorisation de la construction
avec les maisons et les
avec
hôtels.
Les maisons. Et donc on a mis 30 ans entre 1904, Elisabeth Magui et Charles Darroze pour arriver à construire ce jeu à travers des évolutions de règles successives.
C'est pour ça que vous voyez souvent sur Internet des petits « le saviez-vous » qui vous disent « est-ce que vous saviez que l'inventeur du Monopoly l'a pas vraiment inventé ?» Ça vient de ça, ça vient de cette anecdote-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu quelqu'un avant qui avait créé des règles, qui étaient proches mais pas similaires, et qu'il y a eu 30 ans d'évolution du jeu pour arriver à une version du Monopoly qui a été commercialisée, qui est sortie.
Alors,
On va faire un petit interlude musical et on va reprendre tout ça juste après. Donc on va écouter la sélection de Jean-Lou qui nous a apporté une chanson d'une petite jeune qui s'appelle Arletty avec pour titre La Belote. Allez, c'est parti pour La Belote d'Arletty.
On ne joue plus maintenant le zanzi, nini, c'est fini. La manille, les cartes et le bésigue, ça n'est plus pour mes zigues. À la gare et même au bout du quai, le piquet, le jaquet, ces trucs-là sont cuits, ont reçu un coup de billet à leur place aujourd'hui. On fait une petite belote et puis ça va. Tout le reste, c'est de la gnognotte à côté de ça. Quant au café, je suppose, pour régler deux capichis, l'encre, c'est moi qui arrose et que l'autre dit, mais c'est cher ami. On fait une petite belote et puis ça va. Pour être intime dans la note, faut jouer à ça. Quand les gens du monde s'invitent, au lieu de mettre on brisera, sur les cartes de visite, on met on belotera. Jadis les querelles entre poteaux se réglaient au couteau. Ces messieurs vivaient en 5 minutes sur la butte, leur dispute. Sur les deux, il y en avait toujours un qui restait sur le terrain. Aujourd'hui, quand on a une discussion pour savoir qui a raison, on fait une petite belote et puis ça va. On belote et rebelote à tour de bras. Quand on se dispute une rombière, au lieu de verser du sang, c'est un truc bien plus pépère, plus intéressant de la faire en 700. C'est démolir la bouillotte, c'est rien d'allot. Tandis qu'une petite belote, c'est rigolo. comme font les gens les plus smart quand ils se sont injuriés. On échange aussi des cartes et le coup est régulier.
Et voilà, c'était La Belote de Arletty. Alors, j'espère que ça aura ravivé un peu vos haut-parleurs d'écouter un morceau de cette époque-là. Donc, Jean-Loup, tu nous as choisi ce morceau, évidemment pour son thème, j'imagine.
Exactement.
Hein, elle nous cite pas mal
de jeux. Alors, c'est très parisien, mais on a... Une énumération de jeux qui vont du piquet à la bouillotte, du bridge au jacquet, voilà.
Eh bien, c'est bien la première fois qu'on passe du Arletty dans l'émission. Merci Jean-Loup. Alors nous en étions donc à... On s'est laissé juste avant sur l'anecdote sur la création du Monopoly. On va revenir un petit peu sur l'histoire et l'évolution des jeux de plateau durant... le XXe siècle. Donc, on a bien compris, hein, avec ce qu'on a expliqué, que bah, le jeu, il évolue avec la société qui l'entoure, c'est-à-dire son contexte, les gens, etc. On constate qu'il y a des époques, on va dire, marquantes durant le XXe siècle concernant les jeux. Il y a les jeux avant et après-guerre. Hein, on peut considérer un petit peu les choses comme ça. Donc, les jeux avant, donc avant les années 40. Jean-Loup, est-ce que tu peux nous dire comment c'était?
Alors, les jeux avant les années 40, c'était des jeux dont les règles étaient relativement simples. Mmh. Jeux de parcours, jeux de stratégie, mais ou jeux de hasard simples, avec des beaux habillages, généralement.
Oui.
On avait des belles boîtes avec des belles chromos, du matériel en carton épais. Mmh. Et puis, on voit aussi que tous les pions vont évoluer avec les nouvelles technologies. Donc, on va avoir des pions moulés.
Bien sûr, oui.
Hein, des pions en plâtre, des pions en bakélite. Mmh.
Certains jeux ont même des pions dans des types de faïence ou de porcelaine.
Ouais. Mmh. Donc, et après-guerre, on voit là, on rentre dans une diffusion grand public avec la création et la diffusion par de grands éditeurs. Hein, parce que là, il faut quand même parler d'éditeurs comme Parker.
Oui,
hein, qui vont donner une dimension de diffusion familiale.
Oui.
Ce qui n'existait pas avant-guerre. Hein.
Ce qui n'existait pas du tout. Jean-Louis, je vois que tu es venu avec un petit catalogue.
Oui, j'ai...
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce petit catalogue? Alors, je vais en faire des photos, on les mettra sur la version YouTube de l'émission pour que vous puissiez les voir.
Oui, alors c'est le catalogue, en fait, des jouets des étrennes du bon marché 1934.
Voilà, c'est le catalogue de Noël 1934.
Dans ce catalogue, finalement, alors on retrouve beaucoup de jouets.
Oui.
Mais par rapport au jeu, on va trouver des coffres de jeux avec les petits chevaux, les dames, les échecs, oui, les lotos, les puzzles, comme ça. Mais on n'a pas de jeu thématique, une boîte complète avec un jeu type parcours, type Monopoly, par exemple.
Oui.
Ça n'existait pas encore, même si il était créé, il n'était pas diffusé.
Mmh.
Et on ne retrouve aucun jeu de ce type-là.
D'accord.
On retrouve...
Ce qui est fou.
Mais non, parce que je crois qu'on n'était pas encore passé dans la diffusion grand public, grande surface, grand magasin. Cette diffusion va arriver après-guerre. Hein, en 1934, on n'est pas encore dans cette dimension-là. On sera à partir de 1946.
Donc, en 1934, finalement, le jeu est considéré dans ces catalogues-là presque plus comme un jouet.
Il s'adresse aux enfants et pas aux adultes.
Oui.
Hein, on est vraiment là sur quelque chose. Et ce sont des éléments de jeu. Hein. C'est à destination des enfants, c'est pas pour les stratégies adultes.
D'accord.
Même le coffret familial, c'est pour jouer en famille. Effectivement, peut-être adultes et enfants.
Mmh.
Hein, mais pas du tout des jeux avec une destination de grands adolescents ou de jeunes adultes.
Ok. Et alors, tu me parlais en préparant cette émission que cette période-là était l'émergence de certains types de jeux, et en particulier du faire-semblant.
Alors, oui. Alors, faire-semblant, on va voir des jeux de déduction qui vont apparaître.
Oui.
Hein, un des grands classiques du jeu de déduction, d'enquête, c'est le Cluedo.
Oui. Hein, un petit peu plus tard, le Cluedo, on est dans les années 50.
Oui.
Et donc, pourquoi tu me fais des grimaces, Jean-Loup? Non, je voulais parler un peu de l'émergence du faire-semblant dans les jeux, puisque effectivement, à partir d'un moment, sans parler forcément de jeux de rôle, on arrive sur des jeux où on va reproduire des activités, bah, vraiment le faire-semblant.
Oui, alors c'est sur le fictif.
Oui.
Hein, sur la notion du fictif, oui. Alors, on fait semblant, par exemple, de conduire des voitures. Mm-hmm. Tous les jeux de parcours, on va avoir l'introduction du code de la route.
Mm-hmm.
Mais je vois pas où tu veux en venir.
Ah bon, bah c'est pas grave. C'était juste pour te coincer un petit peu sur la question d'après, en fait. Parce que on parle donc de tout un tas de mécaniques de jeu, on a parlé beaucoup de stratégie, mais il y a aussi des jeux de hasard. Et moi, je voulais te demander, par rapport à tous les jeux qui sont sortis à cette période-là, qu'est-ce qui est le plus significatif ? Est-ce que ce sont vraiment les jeux de stratégie, les jeux de hasard ou un gros melting pot ?
Alors, les jeux de hasard ont cette capacité de pouvoir être joués facilement et par un public qui n'a fait peut-être pas beaucoup d'efforts pour apprendre les règles, dans la mesure où c'est le hasard qui va déterminer le gagnant.
Oui.
Donc l'incertitude du résultat, elle est donnée par des dés, par... Donc là, il n'y a pas de besoin de savoir-faire ou de réflexion.
Mmh.
Hein, on est sur, j'ai envie de dire, un peu le bas de gamme du jeu.
Oui, c'est sûr, hein, que sans stratégie,
fatalement. Sans stratégie, ça s'ouvre à un public beaucoup plus large.
Mmh.
Plus on va aller vers des jeux complexes, avec des règles complexes, plus on va avoir besoin déjà de découvrir le jeu, d'apprendre avant de pouvoir jouer. Puisqu'en fait, pour pouvoir être compétitif, il va falloir avoir acquis un certain nombre de compétences et de savoir-faire pour qu'il y ait une réelle incertitude de jeu. Parce que si vous vous mettez autour de la table et qu'en fait quelqu'un maîtrise les compétences nécessaires pour jouer, par exemple, je reprends mon exemple du Cluedo, mais l'aspect de la déduction, ben voilà, il faut un certain âge, on peut pas jouer quand on a 6 ans au Cluedo.
Oui, bien sûr.
Hein, ouais. On va apprendre à avoir les mécanismes pour pouvoir émettre une hypothèse et en tirer une conclusion, et donc d'éliminer par les hypothèses que l'on émet et trouver la bonne solution. Mais tout ça, ça va demander des apprentissages. On n'est pas en train de jouer automatiquement. On ne peut pas ouvrir une boîte de ce type de jeu et pouvoir jouer. Un jeu de hasard, après tout, vous prenez des dés, vous les lancez, et que vous ayez 6 ans ou 80 ans, c'est la même façon de jouer.
C'est la même façon de jouer, tout à fait. Et c'est les mêmes chances de gagner.
Les mêmes chances de gagner, pile ou face.
Oui, bien sûr. Alors, on a vu un peu donc les jeux début 20e siècle, les jeux avant-guerre. On arrive à la période après-guerre. Et c'est vraiment la période de l'émergence des jeux en boîte. C'est l'arrivée des jeux en boîte de la manière où nous, on connaît des jeux en boîte aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour la pratique ludique à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qui a évolué ? Quelle est l'évolution qu'on peut signifier sur la pratique ludique et sur les jeux, à l'époque donc de société, à partir des années 50 ?
Alors, ce sont des jeux à destination d'un public qui va être un public plus adolescent et adulte.
D'accord.
Hein, on va avoir des jeux à règles beaucoup plus complexes, des jeux de stratégie, des jeux de réflexion, qui vont devoir faire appel à des compétences que l'enfant va acquérir progressivement, mais qui va pouvoir se jouer pleinement qu'à l'adolescence ou avec des adultes.
Mmh.
Le Monopoly, par exemple, c'est l'exemple typique. où il y a besoin de stratégie. On peut jouer en lançant les dés, mais ça, on gagnera pas.
Oui.
Il faut pouvoir faire un certain nombre d'analyses pour pouvoir jouer complètement au Monopoly.
D'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse sur le Monopoly, souvent, en tant qu'adulte, on rechigne à faire une partie de Monopoly parce qu'on a le souvenir d'un jeu qui durait des heures et des heures et des heures en après-midi quand on était enfant. N'hésitez pas à relire vos règles de Monopoly, vous verrez qu'une partie fait au maximum 90 minutes et que quand on était enfant, on lisait pas bien la règle et personne ne jouait correctement et qu'en fait, une partie de Monopoly, c'est rapide et c'est beaucoup plus stratégique que la manière dont on pouvait y jouer quand on était gamin. En lançant les dés, en attendant que tout soit acheté, puisque c'est pas comme ça que ça marche à Monopoly.
C'est un véritable jeu de hasard raisonné, avec des probabilités, des ratios de rentabilité. Donc, on joue avec des tableaux.
Ouais. Nous, on n'hésite pas à se refaire à Monopoly de temps en temps, parce que effectivement, on est sur des mécaniques de jeu qu'on a toujours mal utilisées et des règles qu'on a toujours mal exploitées, mal mis en place. Il suffit vraiment de relire la règle et vous verrez, une partie de Monopoly, c'est 90 minutes maxi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur le Monopoly, mais quand on préparait l'émission, on disait que les années 50, c'était aussi un moment où il y a une notion d'enjeu, c'est-à-dire que souvent avant les jeux, il pouvait y avoir des mises, il pouvait y avoir des choses comme ça, que la notion d'enjeu disparaissait et que on était pleinement dans un divertissement où le seul but était de se divertir et éventuellement de gagner la partie, bien évidemment, sans gagner autre chose. Comment on arrivait de on joue à des jeux de dés, des choses comme ça avant guerre et on parie, je sais pas, une pièce, un bout de chocolat, une cigarette, tout ce qu'on veut, on joue juste pour le plaisir.
Alors, parce que je pense qu'on n'est pas sur le même public, c'est-à-dire que l'enjeu va être mis en place par des jeux adultes, par des adultes, pour pouvoir donner une certaine envie de continuer.
Oui.
Hein, parce que c'est vrai que de faire, moi je sais pas, un 4-21, bon ça bien, mais si vous mettez pas une petite pièce ou un tarot,
oui, pour quelque le poids, chose en jeu, oui.
Voilà, c'est après à partir du moment où on va s'adresser à un public plus enfant, plus ado, la partie va prendre une autre tournure,
on
va
être sur une autre dimension, sur
une autre dimension, on va enlever cet aspect de l'enjeu.
Mais du coup, comme on disait qu'il y avait quand même des jeux qui essayaient d'être familial, c'est vrai qu'il fallait plaire aux adultes, aux ados, aux enfants, et donc la notion d'enjeu là disparaît complètement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a rien à gagner. Et moi qui fais souvent des animations avec du public, quel que soit l'âge du public, quand on propose aux gens de jouer, très souvent, il nous demande s'il y a quelque chose à gagner. Mais bien sûr que non, quand on fait un jeu de société, un jeu de plateau, il n'y a rien à gagner à part gagner la partie. Alors qu'avant, effectivement, si on regarde dans l'histoire des jeux, et l'histoire des jeux en général, on voit que la notion d'enjeu, et donc d'avoir quelque chose à gagner, comme une carotte pour faire avancer la partie, eh ben, c'était quasi systématique avant une certaine période, et c'est vrai que là, c'est à partir des années 50, ça a complètement disparu. Alors, on retrouvera des jeux où on va miser des jetons pour remplacer l'argent, je pense au nain jaune, par exemple, mais on va jamais avoir quelque chose de matériel à mettre.
Le nain jaune ou le lin d'or, c'est un jeu traditionnel, c'est un jeu.
Oui, c'est un jeu traditionnel.
Voilà, on le retrouve dès le 18e siècle, oui, hein, oui. Donc, et là, c'était effectivement, là, une véritable mise, c'était pas des jetons.
C'était pas des jetons normalement, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui vous verrez jamais autre chose que des jetons et vous verrez jamais des gens y jouer avec autre chose que des jetons, je crois. Mais effectivement, à la base, c'était des mises et c'était des sous qu'on mettait dedans. Les années 50, Jean-Loup, c'est aussi l'émergence d'un nouveau type de jeu. Enfin, je dis d'un nouveau type de jeu. C'est l'émergence des jeux éducatifs. Je pense à deux maisons d'édition en particulier qui existaient déjà avant cette période-là, mais qui se sont fait beaucoup connaître à ce moment-là. Je pense à Nathan et à Ravensburger. Pourquoi le jeu a explosé dans ce sens-là? Pourquoi il y a eu autant de jeux éducatifs qui sont sortis à ce moment-là et depuis?
Alors, parce qu'en fait, si ça existait déjà auparavant, hein, je t'ai précisé tout à l'heure,
tout à fait,
que le support, même à partir du 19e siècle, cette volonté éducative de diffusion du savoir était déjà là. On le retrouvait sur des lotos, on le retrouvait sur des jeux de cartes.
Tout à fait. Moi, j'ai un loto où il faut replacer des hexagones à la manière un peu d'un puzzle, et derrière chaque hexagone, il y a un proverbe ou une maxime. C'était clairement à volonté éducative. Et ça doit dater des années 20-30.
Voilà. Donc, on est là pour essayer de diffuser de la connaissance. Alors, il y a le jeu éducatif qui est en fait un l'aspect éducatif, c'est de donner à découvrir des choses. Un jeu éducatif, par exemple, Richesse du Monde.
Tout à fait. Richesse du Monde. Souvent, les gens disent que c'est un autre Monopoly, mais c'est pas si faux, c'est pas si vrai. Où, effectivement, on a tout un tas de matières premières, du riz, de l'or, du tungstène, des choses comme ça. Et on doit essayer de faire des trusts aussi dans ce jeu-là. C'est-à-dire que les matières sont éclatées, réparties dans les différents pays du monde et on doit déplacer son pion, au hasard des dés, sur les différents pays du monde et essayer de récupérer, tout l'or qu'il peut y avoir dans les 6 pays des 90 du plateau ou tout le tungstène. Et plus on a de la même matière première, plus on gagne de sous dans le jeu.
Mais on a la répartition des ressources naturelles sur la planète, à l'époque.
De l'époque, bien sûr. D'ailleurs, Nathan accompagnait de nombreux jeux à l'époque d'un livret pédagogique qui disait, le tungstène, qu'est-ce que c'est dans ce jeu-là, pourquoi on en trouve sur tel continent. Effectivement, tous les jeux, Nathan et Ravensburger, étaient accompagnés d'un petit fascicule. Je me souviens aussi chez Ravensburger, le jeu Grand Safari, qui est finalement un jeu où on va collecter des animaux, on va parcourir l'Afrique et voir les différentes espèces qui y vivent, mais il est accompagné d'un gros livret d'une quarantaine de pages qui va nous expliquer en une page va nous donner la fiche de l'animal, des animaux qu'il y a dans le jeu. L'éléphant, il vit dans tel endroit, il mange ça, il vit tant de temps, etc. Et c'est vrai que ces deux éditeurs là sont spécialisés dans ce type d'explication pédagogique, transmission du savoir.
Éducative,
tout à fait.
Dans le sens de la connaissance.
Dans le sens de la connaissance, tout à fait. Eh bien, Jean-Loup, je te propose que nous fassions un deuxième interlude musical. Tu nous as apporté un autre morceau de Nazaré Pereira qui s'appelle Lamarelle. Alors, c'est parti pour Lamarelle.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar, pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular, cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel.
Amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante no umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Amarelinha é pra menina pular, cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Eh bien, c'était Nazaré Pereira pour la chanson « La Marelle ». Alors, Jean-Loup, encore une fois, j'imagine que c'est pour la thématique que tu nous as apporté ce moment-là, le soir-là. Je ne l'avais jamais entendu.
Oui, c'est voilà, c'est un jolie chanson sur la marelle, ce jeu traditionnel.
Mmh. Alors, on peut peut-être préciser pour les gens de quelle marelle on parle.
Alors, c'est la marelle que tous les enfants ont dessinée à la craie, où c'était un jeu d'adresse
dans
en
les
même
cours
temps,
d'école,
libre.
Où on saute à cloche-pied, tout à fait. dernière question, Jean-Loup, par rapport à notre balayage un peu du XXe siècle sur les jeux de plateau. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en 2021, pour les jeux de plateau qui sortent, on devrait utiliser un terme comme aujourd'hui on a des jeux modernes?
Alors, non, je crois pas. La nouvelle mécanique, en fait, de façon récente, la mécanique qui aujourd'hui prend la première place, c'est le principe de coopération.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est particulièrement à la mode depuis des années maintenant.
Enfin, depuis quelques années.
Quelques années, oui.
Hein. Mais voilà, ça sous-tend beaucoup de création aujourd'hui. Mm-hmm. La coopération, c'est-à-dire qu'on va lutter contre une mécanique. L'ensemble des joueurs vont lutter contre la mécanique. Alors, personnellement, c'est pas des jeux qui ont... J'accroche pas. Mais... Je trouve que ça perd complètement et que l'intérêt de l'affrontement.
Oui. C'est vrai que c'est des jeux, on dirait que ce sont des jeux qui sont faits pour qu'il n'y ait pas de personnes qui soient déçues autour de la table de jeu du jeu, c'est-à-dire soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd dans la plupart des jeux coopératifs. L'essence du jeu, c'était qu'il y avait un gagnant et que le reste de la table n'avait pas gagné, donc qui étaient des perdants. Si aujourd'hui, il n'y a que des perdants ou que des gagnants, quelle est la valeur de la victoire? Quelle est la valeur de la défaite? Bon, bah oui, c'est vrai que ça pose des questions. Après, on a vu aussi qu'il y avait une grosse émergence ces derniers, depuis plus de 20 ans, de ce qu'on appelle les jeux d'ambiance. Je pense à des jeux qui se jouent très rapidement. On les appelle aussi souvent les jeux apéro, où, encore une fois, là, il peut y avoir qu'un seul gagnant, mais on n'a pas la même satisfaction de victoire sur un petit jeu d'ambiance qui se fait en un quart d'heure que, effectivement, sur un Colon de Catane où on a passé 90 minutes assis autour de la table. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de commun qui rapproche un peu la façon de consommer le jeu entre le jeu d'ambiance et puis maintenant le jeu coopératif. Alors, le jeu coopératif, il est peut-être là aussi parce que les escape games ont été et sont encore particulièrement à la mode et c'est aussi un principe coopératif. Mais alors, est-ce qu'on peut en déduire que? Mais c'est vrai que aujourd'hui, le marché du jeu de plateau, moi aussi, me paraît pas mal inondé par le jeu coop. D'ailleurs, que ce soit pour tous les types de joueurs, on en trouve pour tous les âges maintenant, qu'on soit un vrai gamer ou qu'on soit ce qu'on appelle un casual, un joueur occasionnel, on va trouver un jeu coop qui est adapté à notre pratique ludique. Donc, dommage, pas dommage, ça reste une évolution du jeu, ça reste des jeux, nous on en teste quand même régulièrement, on teste de tout, donc on tombe forcément sur des jeux coop. C'est comme tous les autres jeux. Moi, j'ai envie de dire, il y a des bons, il y a des mauvais, mais effectivement, on n'a pas la même. Moi, je ressens pas le même plaisir de jouer un jeu coop qu'à une mécanique de jeu plus classique où il y a un gagnant. Voilà. Mais bon, c'est peut-être des points de vue de vieux con finalement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Jean-Loup, pour finir, la dernière fois, tu nous avais amené une bibliographie pour les gens qui voulaient un peu. Approfondir le sujet de l'histoire du jeu de rôle. Là, est-ce que tu nous as amené une biblio ou une liste de jeux à nous conseiller quelque chose?
Ah non, alors une petite biblio. Alors,
une petite biblio.
Une petite biblio. Alors, il y a un ouvrage, malheureusement, qui n'est plus disponible actuellement, qui est l'histoire du jeu de société de Jean-Marie Lotte, qui date de 1992. Donc, c'est un ouvrage qui va clôturer la vision... jusqu'à la révolution du jeu de plateau des Colons de Catane, puisque il a été édité juste avant ce tournant-là.
Sortie, oui.
Donc en fait, on va y retrouver toute la gamme jusqu'à Ludodélire, mais on trouve pas les Colons de Catane.
D'accord. Alors c'est un livre qui n'est plus édité, mais vous pouvez le trouver d'occasion, bien évidemment, sur tous les sites d'occasion. Et c'est effectivement un excellent ouvrage.
Voilà. Ensuite, il y a un ouvrage de Belle. Un ouvrage malheureusement non traduit sur les jeux de table, sur l'histoire des jeux de table et des jeux de tablier, qui est un ouvrage incontournable. De même, on peut citer Faulkner, ou Murray.
D'accord.
Hein, qui sont des auteurs anglo-saxons, malheureusement pas traduits, mais
ah oui, ça c'est bien dommage,
mais qui reprennent vraiment toute l'histoire et la généalogie de tous les jeux classiques.
D'accord.
Mais pour rester dans le domaine francophone, l'histoire des jeux de société de Jean-Marie Lotte, incontournable. Après, vous pouvez trouver de façon un peu plus récente chez des éditeurs comme Ouest France. Des espèces de petits ouvrages qu'on appelle jeux d'antan, qui reprennent un peu la chronologie des jeux tels depuis le début du XXe siècle.
D'accord.
Avec des gravures. C'est plus simple, plus facile d'accès peut-être.
Très bien. Eh bien, merci Jean-Loup. Alors, vous le savez, chaque mois, en fin d'émission, on essaye de vous dire le programme des semaines et des mois à venir. Alors, depuis quelques mois, le programme, évidemment, il n'y en a plus à cause de la crise sanitaire. Et là, ça y est, on est enfin, un retour sur une vie normale. Donc, le Conservatoire du jeu est en train de vous préparer un programme aux petits oignons pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, on vous donne pas encore de date sur cette émission-là. On ne vous donne pas encore de date aujourd'hui. On vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, etc. et ainsi notre site internet. On va mettre en ligne prochainement l'intégralité du programme pour semaines et mois à venir. Les animations sont en train de se roder et de se mettre en place. Alors, je vous rappelle notre Facebook Conservatoire du Jeu, idem pour les autres réseaux sociaux, et en ce qui concerne le site internet Conservatoire du Jeu. .fr, bien évidemment. Notre émission est terminée. On se retrouve le mois prochain. Jean-Loup, un mot pour la fin ?
Bah écoutez, bonne partie.
Merci Jean-Loup d'avoir été mon invité. C'était aujourd'hui la 27e émission de À quoi qu'on joue. Bientôt la 30e, on fera une spéciale, c'est promis. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions ainsi que celle-ci sur les podcasts de Bac FM, mais également sur notre chaîne YouTube, le Conservatoire du jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous dis au mois prochain et en attendant, soyez ludiques.